21h à Paris, 19h en temps universel sur RFI. Et tout de suite, c'est votre journal, Adrien Delgrange. Bonsoir Adrien.
Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition internationale, un cessez-le-feu annoncé, puis violé pour être finalement respecté. À en croire les informations qui nous parviennent, ce soir Téhéran annonce officiellement la fin de la guerre avec Israël. Donald Trump à la manœuvre de cet arrêt des combats au Moyen-Orient. Un autre sujet attend le président américain, la guerre en Ukraine. Donald Trump est arrivé ce soir aux Pays-Bas, il vient participer au sommet de l'OTAN où il devrait normalement s'entretenir avec Volodymyr Zelensky. Sur le continent sud-américain, des images montrent des maisons recouvertes de terre sur une montagne. En Colombie, un glissement de terrain tue au moins 8 personnes près de Medellín. Et puis enfin, juste après ce journal, Daniel Obono, député La France Insoumise, est l'invité de Mardi Politique. Un fragile cessez-le-feu entre Israël et Iran. Le président iranien assure ce soir que son pays respectera la trêve initiée tôt ce matin par les États-Unis, mais à condition qu'Israël fasse de même. Dans la soirée, Massoud Pezeshkian a tout de même proclamé la fin de la guerre de 12 jours imposée à son pays par Israël. De son côté, le gouvernement de Benjamin Netanyahou en Israël s'est vanté d'avoir éliminé une double menace existentielle immédiate, à savoir le nucléaire et le balistique. Les répercussions de cette guerre qui est en train de s'achever sur le plan économique. Les prix du pétrole ont dégringolé la nuit dernière. Les deux références du marché ont chuté de plus de 7% après l'acceptation d'Israël et de l'Iran d'un cessez-le-feu. Pour Antoine Andréani, directeur de recherche chez le courtier XTB France, les marchés, écoutez, ne croient pas au scénario d'une escalade militaire.
Le prix du pétrole a vraiment chuté. Ça veut dire que le marché croit vraiment que ça va se calmer au Moyen-Orient. Il y a plusieurs raisons qui expliquent en fait cette résilience. Le premier, c'est que le marché connaît Trump. Il sait que c'est un homme qui va mettre beaucoup de pression au début, mais que par la suite, il va avoir un compromis. Et le marché s'est habitué à cette psychologie de Trump, surtout que le marché a déjà, entre guillemets, joué à se faire peur, notamment début avril avec les taxes douanières. Et donc, voilà, le marché a une mémoire et il se souvient de ça. D'autant plus que, voilà, il y a des éléments comme l'absence de dommages collatéraux sur les infrastructures pétrolières, des attaques vraiment très, très ciblées, l'Iran qui évacue les sites nucléaires bien en amont. Tout ça mis ensemble fait que le marché est très résilient. On va voir comment ça va se développer dans les prochains jours, prochaines semaines. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Trump, ça y est, il a choisi le deal, il veut faire la paix et il veut que ça s'arrange.
Autre indicateur, le dollar, moins 0,4%. Le billet vert perd du terrain ce soir dans ce contexte de cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Le sommet de l'OTAN s'est ouvert aujourd'hui à La Haye, sous pression de Donald Trump qui réclame davantage d'efforts financiers de la part des autres pays que les États-Unis. Les 32 pays membres devraient se mettre d'accord pour consacrer 5% de leur PIB à la défense. Un des enjeux de ce sommet sera également l'aide à apporter à l'Ukraine. La ville ukrainienne de Dnipro a été bombardée aujourd'hui par la Russie. Le bilan humain de la frappe russe est revu à la hausse ce soir. Au moins 19 morts, 279 blessés. Volodymyr Zelensky est invité à ce sommet de l'OTAN. Il devrait s'entretenir avec Donald Trump. Muriel Paradon.
Volodymyr Zelensky est reçu par le Premier ministre néerlandais à son arrivée à La Haye, ville où siège la Cour pénale internationale. La Russie doit rendre des comptes, rappelle le président ukrainien, alors que Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre. Volodymyr Zelensky est surtout venu plaider au sommet de l'OTAN pour davantage de soutien militaire. Mais il propose également l'aide de son pays en matière de technologie sur les drones.
La coproduction de drones est la priorité aujourd'hui. Tout le monde sait que le niveau de technologie en Ukraine s'est amélioré drastiquement pendant la guerre. Nous avons ces technologies et nous voulons les partager avec nos partenaires pour sauver l'Europe, car la Russie travaille sur ces drones avec la Corée du Nord, avec l'Iran. Nous devons travailler ensemble sur notre sécurité.
Les Pays-Bas et la France ont déjà annoncé leur intention de sceller des partenariats avec l'Ukraine pour la production de drones. L'Europe s'engage de plus en plus pour assurer sa propre sécurité, poussée également par Donald Trump, attendu ce mardi soir au sommet de l'OTAN. Le président américain que Volodymyr Zelensky espère rencontrer demain, après un rendez-vous manqué au G7 la semaine dernière, Donald Trump était parti prématurément.
RFI 21h05, à Paris, en Colombie, au moins 8 personnes sont mortes, 5 autres sont blessées dans un glissement de terrain survenu près de Medellin, dans la ville de Belo. L'éboulement a touché plus de 10 logements. Des images diffusées par les médias montrent des maisons recouvertes de terre sur une montagne. Un soldat de la marine américaine a été condamné au Japon, reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement une femme dans la ville d'Okinawa l'année dernière. Le procureur avait demandé une peine de 10 ans de prison. Le soldat américain passera finalement 7 ans derrière les barreaux. Précision, Heike Schmidt.
La jeune femme a subi une attaque vicieuse, selon le juge cité par l'agence de presse Kyodo News. En mai 2024, le soldat Lance Jamil Clayton, âgé de 22 ans, avait étranglé sa victime pendant 2 minutes en essayant d'avoir un rapport sexuel avec elle. Cette affaire est la dernière en date d'une longue série qui implique des militaires américains basés à Okinawa. Au cours de la seule année dernière, 4 militaires américains y ont été accusés d'agression sexuelle, dont Brennan Washington de l'armée de l'air, condamné à 5 ans de prison pour l'enlèvement et le viol d'une jeune fille mineure en décembre dernier. Depuis longtemps, les crimes commis par le personnel américain suscitent la colère de la population locale. De nombreux habitants d'Okinawa souhaitent la suppression pure et simple des bases américaines sur leur île, qui accueille plus de la moitié des 54 000 soldats américains au Japon. Cette demande risque toutefois de ne pas être entendue de sitôt, vu les défis auxquels fait face le Japon et en particulier les revendications croissantes de la Chine.
Dans l'actualité française, le Premier ministre François Bayrou, qui rencontrait les partenaires sociaux pour tenter de surmonter l'échec du conclave sur les retraites, est désormais visé par une motion de censure des députés socialistes. Vous avez pris des engagements qui n'ont pas été tenus, a lancé le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui par ailleurs rejette la proposition de loi intitulée Grémiller, proposition de loi sur la trajectoire énergétique de la France, rejet par 377 voix contre 142 votes. Cette loi était revenue au centre de l'attention la semaine dernière après le vote de différents amendements, dont la relance de la centrale nucléaire de Fessenheim, pourtant en cours de démantèlement. Amendement porté par le Rassemblement national et les Républicains. Résultat, le Bloc central, le parti présidentiel, le Modem et Horizon ont voté contre le texte final. Pauline Glaise, la trajectoire énergétique de la France est donc une nouvelle fois secouée.
Le rejet de ce texte comportant un moratoire sur l'éolien et le solaire, voté à la faveur d'un absentéisme important dans l'hémicycle la semaine dernière, est une bonne nouvelle pour le monde de l'énergie, estime Alexandre Joly. Mais le responsable du pôle énergie chez Carbone 4 n'est pas rassuré par cette péripétie.
On peut vraiment se questionner sur le processus démocratique qui accouche d'aberrations sur le plan technique. Typiquement, le moratoire sur les énergies renouvelables, je viens de vous le dire un peu au niveau de l'incohérence si on veut s'aligner sur les objectifs de décarbonation. On peut penser aussi à la réouverture suggérée de la centrale de Fessenheim alors que cette centrale est en début de démantèlement. On a beaucoup de démagogie qui s'est insérée dans le débat de l'énergie ces dernières semaines et mois.
Le texte va retourner au Sénat. Son issue est encore incertaine, tout comme l'influence qu'il aura sur le décret de programmation pluriannuel de l'énergie qui pourrait être publié avant la fin de la navette parlementaire. Quoi qu'il en soit, l'épisode de ces derniers jours pourrait laisser des traces, estime Andreas Rüdinger de l'IDRI.
Ce qu'on a vu se profiler ces derniers jours, c'est que désormais, il y avait une possibilité politique qu'une telle décision voie le jour. Et donc même si elle a été rejetée pour l'instant, elle peut revenir très rapidement. Donc en fait, le fait même que ça existe va forcément pouvoir décourager des investisseurs étrangers.
Or, insiste-t-il, l'enjeu c'est le climat et la souveraineté énergétique.
Pauline Glaise dans ce journal international. Et puis enfin à la page sport, elle avait fait des étincelles à Roland-Garros. Loïs Boisson éliminée d'entrée. Élimination lors des qualifications du tournoi de tennis de Wimbledon, Grand Chelem sur herbe. La joueuse française a perdu face à une joueuse canadienne. Ainsi se referme ce journal à suivre sur la Radio Mondiale, Mardi Politique.